mitraille à Yarni. Mais il y avait aussi un militaire assis qui me dit, mon petit, ben qu'est-ce que vous venez faire? Moi j'y ai répondu, c'est qu'on m'a convoqué. Monsieur soldat, c'est pour ça que je suis là. Il m'a dit, garde à vous, ben où vous croyez-vous donc? Je vois, ma foi, vous êtes une forte tête. Vous asseoir devant moi, ça se passera pas comme ça. Debout, sans retard, ou je vous fourre au mitard. Moi j'y ai répondu, je ne suis qu'un jeune conscrit. Y a pas d'offense si je connais pas l'usage. Je vous voyais assis, je me suis assis aussi. Voici, voici pourquoi j'agis ainsi. Je me suis relevé, je lui ai avoué que j'étais pincé pour sa petite secrétaire. Puis j'ai voulu savoir si elle sortait le soir et si les bleus avaient le jeudi pour eux. Il est devenu tout noir, c'était pas beau à voir. Il sait...
Oui. Ah voilà. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, que vous écoutez bien sûr sur le 89.4 FM, ainsi que radio-libertaire.org, et enfin, parce que c'est la vie moderne et c'est absolument exceptionnel, eh bien en DAB+. Est-ce qu'on dit DAB ou DAB? Je ne sais pas, moi j'ai envie de DAB, donc je dis DAB. DAB+, voilà. Dans quelques microsecondes, le début du Ferry Club hors série.
Tenez.
Ah ouais, merci. Tout est bien réglé, oui, c'est ça? T'as mis tout là bien? Parfait.
On peut essayer quand même. On va essayer.
On y va.
Bien réglé.
Ben
on
n'est
pas des spécialistes, mais quand même.
Voilà. Moi non plus, mais on fait comme si.
On peut envoyer.
Sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Bonsoir à toutes et à tous, on est parti pour jusqu'à... Oh là, jusqu'à matin. Salut.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
S'il est vrai, que chaque génération est marquée par les auteurs, les compositeurs qui l'ont illustré, nul doute que notre génération ne doive une grande part de ses rêves à Léo Ferré. Léo Ferré.
La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'en peut-être. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite.
Le Ferry Club, votre tranche hebdomadaire de Léo, entre 16h et 17h sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, que vous écoutez donc également en DAB+, et sur radio-libertaire.org. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, nous ne sommes pas mercredi, il n'est pas 16h, mais le Ferry Club est bel et bien votre tranche hebdomadaire de Léo. Néanmoins, ce soir, eh bien, le Ferry Club est en mode hors-série, puisque nous ne sommes pas une date tout à fait comme les autres. Avant de vous préciser les choses, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Radio Libertaire avec la carte d'auditeur, carte d'auditrice. Elles sont disponibles du côté de la librairie du Monde Libertaire au 145 de la rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez également la souscription des amis avec un E et sans amis de Radio Libertaire. Ça se passe sur radio-libertaire.org. Vous avez enfin les autocollants de Radio Libertaire que vous pouvez coller si vous en avez envie ou juste les garder comme ça, comme marque-page. Pourquoi pas ? Il y a des gens qui utilisent les autocollants de Radio Libertaire comme marque-page. Je le sais. Donc voilà, pourquoi pas. Et enfin, un autre moyen de soutenir la radio, eh bien, c'est le bouche à oreille. Ça, c'est un moyen qui ne coûte pas un rond, mais qui permettra à celles et ceux qui vous entourent, eh bien, pourquoi pas, d'être gagnés par la petite graine anar, la petite graine d'ananar, la petite graine anarchiste, qu'il est bon de semer dans certaines consciences, afin que peut-être, nous échappions au pire. Bref. Bien, nous sommes donc en mode hors-série ce soir dans le cadre du Ferry Club et je vous propose un programme jusqu'à demain matin. Alors nous sommes dans une journée très particulière puisque nous sommes le 24 août. Et le 24 août, c'est l'anniversaire de Léo Ferré. Et c'est un anniversaire particulier ce soir que nous fêtons puisque ce sont les 110 ans de Léo Ferré. Et donc le Ferry Club ce soir vous propose un programme en la mémoire de Léo, bien sûr, et qui va peut-être, je l'espère, vous permettre de connaître davantage Léo Ferré. Je dis ça parce que le programme que je vous propose ce soir est tout à fait particulier. Il ne sera pas tellement musical, il sera essentiellement parlé. Alors bien sûr, Léo n'est pas là pour nous raconter sa vie, mais ce que je vous propose ce soir, c'est un programme tout à fait particulier. Alors, je me suis appuyé sur le fonds d'archives absolument exceptionnel, constitué par les animatrices du site leo-ferré.eu, Chris et Sylvie, que j'embrasse très fort à cet instant, et qui, par amour pour Léo, au fil des années, ont constitué un fonds d'archives absolument fabuleux. Et pour cet anniversaire, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé en revue l'intégralité, ou quasiment, peut-être qu'il en manque une ou deux, c'est pas possible qu'il en manque une ou deux, mais disons quasiment l'intégralité de ce fonds d'archives, et j'ai gardé les moments où Léo nous parle de sa vie, les moments où il nous raconte un petit peu ce qui se passait pour lui à certains moments clés de sa vie. Tous ces moments d'interview, que ce soit dans des documentaires, dans des journaux télévisés, dans, je ne sais pas moi, des reportages sur lui, enfin, que ce soit à la radio ou à la télé, tous ces petits moments où Léo parle de sa vie, je les ai articulés, je les ai mis bout à bout pour faire en sorte qu'au final, Léo nous raconte un peu sa vie. Alors il y aura 9 grandes parties dans cette émission. On va commencer dans quelques instants avec bien sûr sa naissance, son enfance. On va avancer au fur et à mesure des années dans 9 grandes parties. Alors il y a forcément un petit déséquilibre entre les différentes parties. Bien sûr les premières années, les années de son enfance, de sa jeunesse, de son début dans le métier, c'est les années sur lesquelles Léo est revenu le plus souvent en interview. C'est forcément les questions qui étaient récurrentes chez ses interlocutrices et interlocuteurs, et donc forcément qu'il a eu l'occasion très régulièrement de parler de cette première période de son enfance, de sa jeunesse. Bien sûr, de la même manière, lorsque dans les années 70 ou 80, ou a fortiori 90, on demandait à Léo qu'il nous raconte sa vie, il n'allait pas nous raconter précisément ce qu'il était en train de faire. Ça aurait été un peu compliqué. Il n'y avait pas encore de recul, c'est bien sûr. Mais je me suis servi tout de même de quelques documents qui nous permettront de comprendre un petit peu où est-ce qu'il en est. Voilà. Donc un petit déséquilibre effectivement entre le début et peut-être un petit peu moins à la fin. Pour vous dire également que durant ce programme, il n'y aura pas énormément de musique, hein, puisque j'ai quand même essentiellement laissé la parole à Léo, et donc beaucoup, beaucoup d'extraits parlés plus que chantés. Mais on aura quand même quelques chansons, eh bien, que je vous annoncerai entre les différentes parties. Je prendrai le micro entre les différentes parties pour vous donner éventuellement quelques repères pour mieux vous aider à comprendre ce que Léo va nous raconter, et puis vous annoncer les chansons que nous avons écoutées. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que ce programme a commencé avec la chanson Ni Dieu ni Maître, une chanson de Léo que je dédie tout particulièrement à mon amie Christiane. Quelques repères peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas du tout Léo Ferré. Léo Ferré est né le 24 août 1916 à Monaco. Il est mort le 14 juillet 1993, ou selon certaines sources, il va mourir le 1er janvier 2000. Ce n'est pas impossible, je ne sais pas. Léo Ferré était un auteur, compositeur, interprète, un ACI, comme on dit de nos jours, un chanteur, un compositeur. Il a composé bien des chansons. Il a composé également des œuvres de musique dites classiques, des œuvres symphoniques par exemple. Il a dirigé des orchestres très régulièrement, on entendra bien sûr parler de cette activité. Il a écrit des livres également, Benoît Misère, Le Testament Phonographe, dont il parlera hein, durant ces quelques heures que nous allons passer ensemble. Et puis il est l'auteur de nombreux albums entre 1950 et 1991. De nombreux albums dont nous écouterons bien évidemment de larges extraits ce soir. Voilà. Donc je vais me taire, il est 21h11, nous sommes en direct, nous sommes le 24 août précisément 2026 en ce qui nous concerne, mais je vous propose que nous allions tout de suite, que nous retournions il y a 110 ans et que nous commencions par le commencement. Radio Libertaire, le Ferré Club, ce soir c'est parti, hors série pour les 110 ans de Léo Ferré.
Léo Ferré, d'où êtes-vous? Qui êtes-vous?
Je m'appelle Léo Ferré. Je suis né le 24 août 1916 à Monte-Carlo. Dans la vie, j'écris des chansons. Il y a bien longtemps, personne ne m'écoutait. C'était difficile. C'est toujours un peu difficile de vivre, pour tout le monde, pour les poètes aussi.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Ferré Léo Albert Charles-Antoine, né le... Vous regarderez Larousse.
Ah, vous êtes dans le dictionnaire. Bravo.
Est-ce que c'est votre vrai nom, Léo Ferré?
Léo Ferré, né le 24 août 1916 à Monte-Carlo, 9 avenue Saint-Michel, principauté de Monaco.
Vous savez, moi, je dis que je suis Léo Ferré, je suis Léo Ferré, je suis né le 24 août 1916. Ma reine s'appelait Léa, c'est pour ça qu'on m'appelait Léo. Puis Ferré, mon père, il s'appelait Ferré. Son père était cocher de fiacre à Nice, et son grand-père, il s'appelait Evasius Ferré. Il est né à. Donc, mon arrière-grand-père est né en Italie, à Casale Monferrati. C'est pour ça que je dis que je suis au trois quarts italien, parce que dans mes origines, il n'y a qu'une. La mère de mon père, qui s'appelait. Elle était d'origine vendéenne, elle avait échoué un jour à Charleval en Provence, elle s'appelait elle a un drôle de nom, enfin je m'en souviendrai aucune, non mais parce qu'elle avait Poussel, voilà, Poussel. Oui. Et chez ma mère on s'appelait Scotto, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le Scotto qu'on connaît.
Votre père s'appelait Joseph et votre mère Marie.
Oui, j'ai eu de la chance hein.
J'ai toujours été révolté, ma mère me disait que j'avais une difficulté à sortir de son ventre. Je sens que j'étais déjà dans une prison.
Vous êtes monégasque au départ, après ça vous avez vécu en France?
Non, je suis français au départ par mon père, et j'ai été monégasque plus tard parce que ma mère est monégasque.
Ah bon?
Parce qu'on est à Monaco, quoi.
Oui.
Alors j'ai la double nationalité.
Oui.
Mais
1916, grande année, année de naissance de Léo Ferré. Et je vous demande si vous vous souvenez lequel de ces personnages était président de la République française cette année-là.
Souviens-toi des souliers usés, des vendredis, et le poisson qui se rendait sur la table à midi, et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli. Frais ou pas le maquereau, faut que ça fasse des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mer Larousse, le frangin à rabat comme un flic à tes trousses, et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson toute nue. L'enfance, l'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça de passé. L'enfance. Souviens-toi des frangines qu'avait même pas 10 piges dans la nuit retrouvée. On jouait à se faire la pige, même qu'elles étaient girondes, avec leurs yeux barrés juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors et ce halètement divin, je l'entends encore. Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons, c'est le remords de la raison, c'est la folie aussi. L'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit. L'enfance, c'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté. L'enfance, l'enfance, c'est jour après jour quitter l'ombre, et vers la proie et vers le nombre, c'est apprendre à frapper. L'enfance. Souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, 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 qui tournait.
Si on parle de l'enfance, ça vous ennuie, Léo Ferré? Moi, je sais que vous retournez souvent à Monte-Carlo, vous êtes monégasque, non?
Je ne retourne pas souvent, j'y passe.
Vous y passez?
J'ai gardé l'appartement que ma mère louait.
Oui.
Parce que ma soeur y va de temps en temps, tout ça. Et puis parce que, bon, c'est un souvenir. Et puis, dans cet appartement, il y a le lit dans lequel je suis né.
Oui.
Alors je le raconte, c'est drôle. Bah, bon.
Vous racontez à vos enfants?
Je le raconte à mes enfants, oui.
Oui.
Alors, Monaco, bon... ça a été extraordinaire pour moi parce que, vous savez, j'ai eu une enfance solitaire, dans le sens que je ne parlais pas, je ne disais rien. J'étais heureux comme tous les enfants. Mes parents étaient gentils.
Gentil, oui.
Oui. Et, mon père, c'était le pater familias. Hein, ça. Vous savez que ça a changé, ça. Non, hein, fantastique. J'ai tout de même pas vécu au Moyen-Âge.
Quand vous étiez
tout petit. Est-ce que je puis me permettre là aussi une question sur cette enfance? Comment est-ce qu'elle s'est passée? Vous me dites que maintenant, en la revoyant à travers vos souvenirs, vous avez l'impression d'avoir été seul. Mais ça a été quel genre d'enfance? Est-ce que c'était au sein d'une famille organisée avec peut-être d'autres frères et sœurs, ou est-ce que c'était moins structuré que cela?
J'ai eu une sœur. Monaco, c'est un pays particulier. Moi, j'ai été élevé grâce à la martingale. Mes habits, c'était la martingale. Mais tout, parce que tout vivait là-bas sous le casino. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on pourra en parler, j'ai horreur du jeu. Ça, j'aime pas le jeu du tout. Parce qu'on m'a tellement dit que le jeu, c'était la fin du monde. Je le crois. Et j'ai été élevé... J'ai des parents... que j'aime beaucoup. J'ai eu des tantes. J'ai été élevé un peu à la maison, un peu à la rue. C'est-à-dire, j'ai été élevé dans un endroit qui s'appelle les remparts. N'est-ce pas, je ne sais pas si vous connaissez la principale de Monaco. Il y a des remparts. N'est-ce pas. Et alors, nous étions 5 ou 6 copains et des petites copines. J'ai été élevé comme ça, très souvent, dehors. Et l'impression que j'avais, c'est que quand j'étais très petit, que je devais être musicien, mais ça n'est que maintenant que je peux me rendre compte de ça, parce qu'alors, je pensais que tout le monde était musicien. Je pensais que tous les gens pensaient comme moi. Ouais. Si tant est qu'on puisse penser à l'âge de 5-6 ans, quoi. Et... c'est dans ce sens que je vous disais tout à l'heure que j'ai appris la solitude assez vite, et malgré moi, que c'est rentré dans ma vie comme ça, comme un coup de poing, la solitude. On m'a poussé là, comme ça. Allez, t'es seul. Vous voyez ?
Mais dans mon enfance, Monaco, maintenant quand j'y pense, quand j'y repense, quand j'y retourne, je revois le Monaco de mon enfance qui n'était même pas la même chose. Moi, j'ai été élevé en partie sur ce qu'on appelle les remparts. Et puis, il y avait la mer. Les bateaux qui venaient, les bateaux charbonniers particulièrement, parce qu'il y avait des bateaux blancs et des bateaux noirs. Moi j'aimais les bateaux noirs, les bateaux sales, qui venaient au quai, qui étaient sales, qui leur étaient réservés. Et les bateaux blancs allaient de l'autre côté. Ceux-là, je ne les regardais pas. On voyait les bateaux arriver avec un copain, on les regardait arriver, on allait les supputer de loin, longtemps à l'avance. On disait, tiens, c'est celui qui arrive de Rotterdam. On les connaissait. Et dès qu'ils arrivaient, par une sorte de mimétisme, on embarquait à terre. C'est-à-dire, les remparts devenaient un immense bateau. Et tout le temps qu'ils déchargeaient le charbon, nous, on l'employait à être sur un bateau imaginaire.
Vous savez que moi, quand j'étais petit, je jouais au tramway. Parce que j'ai toujours aimé le tramway. Alors, chez moi, j'avais une manivelle, j'avais un escabeau avec un trou au milieu, je mettais une manivelle, et puis sur une chaise à côté, je mettais le moulin à café, parce que c'était le frein. Et à gauche, j'avais la manivelle, et je faisais le tram. Quand je faisais le palo Watman, je faisais le receveur. Alors j'avais des billets, mon père me donnait des billets qu'il avait trouvés comme ça, des petits billets de toutes les couleurs, etc. Et il m'est resté quelque chose de ça. Quand je vais en Belgique, des fois que je suis désespéré, pour une raison ou une autre, ou mélancolique, je vois, dans les villes où il y a des trams encore, je vois un Watman, et je le regarde avec sympathie, puis je me vois dans lui, je me dis pourquoi j'aimerais bien être Watman tout de suite. Être Watman, plus être moi, et être Watman, comme ça. Un Watman belge.
J'étais petit. Ma mère faisait la cuisine très bien. Sa tante faisait très bien la cuisine aussi. Et sa cousine Germaine, la fille donc de ma tante, sur les remparts à Monaco, faisait la cuisine de là-bas, quoi. C'est-à-dire de Monaco, Nice, Gênes, quoi. C'est le même genre de cuisine. Et je les regardais, Ça m'avait... Je gardais ça comme un tabou vivant, quoi. J'étais petit, j'étais pas plus haut que la table. J'étais comme ta petite fille. Je regardais ma tante qui faisait les raviolis, quoi. Mais alors, avec quel art, quelle distinction dans le secret de la farce, comme ça. Prendre ce qu'il faut exactement, quoi. Pas trop, pas moins. Avec le petit chapeau des Capelletti. Et puis ce bouillon de... bouillon de poule et de bœuf, qu'on appelle le pot-au-feu, qui cuisait 6 heures, 8 heures. Fantastique. Et la tante de ma mère avait son mari, tonton Ciro, chez qui j'étais très souvent. Il se levait de bonne heure le matin, il mettait sur le fourneau à charbon. Parce qu'il disait que le gaz, c'était la fin du monde. Sur le fourneau à charbon, il mettait la sauce tomate à 6h du matin, puis il la surveillait jusqu'à 11h, 11h30. Et quand il était obligé de s'absenter, il allait faire un petit tour en ville, il disait à ma tante, regarde, il parlait italien d'ailleurs, regarde la sauce, fais attention qu'elle ne brûle pas. Alors cette sauce qui avait cuit 4-5 heures, ça devenait un rendez-vous avec le gustoso, comme on dit en italien, avec tout ce qui est infaillible dans la façon de manger, c'est-à-dire le bonheur des papilles qui se réjouissent bien avant que ça arrive même sur la table.
J'ai vécu dans un plat de spaghettis, moi, depuis que je suis tout jeune. Avec, mais attention, le spaghetti, l'art culinaire. Et quand on mangeait les pâtes qui étaient faites à la main par sa femme, qui était donc ma grand-tante, et que je voyais, moi j'étais tout petit, j'affleurais à peine à la planche où elle travaillait avec la farine. Je la voyais faire ses pâtes comme ça. Elle roulait avec le rouleau. Elle tournait les pâtes comme ça, et puis elle coupait avec un petit couteau, les pâtes très fines, on appelle les tagliarini. Puis il me disait, Léo, alors moi je prenais les pâtes d'un côté, puis j'en faisais des cheveux. Vous comprenez, je dis que les pâtes à la main, c'est la noblesse du spaghetti. Hein? Et alors, elle en faisait des tonnes, parce que nous avions des appétits redoutables.
La musique souvent me prend comme une mer vers ma pâle étoile. Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. La poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voit. En moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre, le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent d'autrefois, calme plat, grand miroir de mon désespoir.
Tout petit, j'avais 4-5 ans, et je dirigeais des orchestres imaginaires dans la rue. C'était une rue où les voitures ne passaient pas. J'habitais à Monaco, puisque je suis de là-bas, et près du palais princier, il y avait une grande horloge, puis il y avait ce qu'on appelle les remparts. Maintenant, c'est foutu parce que les voitures passent, ça a changé, que tout change, c'est ignoble. Mais j'étais dans la rue, je dirigeais des orchestres imaginaires. C'était donc en 21-22, c'est les radios, hein, ça courait pas les ondes. Hein. Et je connaissais pas ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais mon fils Mathieu qui avait 5 ans, en 75, je suis passé devant, j'étais devant la maison de ma mère. Il y avait une amie de ma mère qui m'a dit, tu te rappelles Léo, quand tu avais l'âge de Mathieu, que tu dirigeais des orchestres dans la rue, il n'y avait personne. Elle ne m'a pas dit imaginaire, parce qu'elle n'a même pas le vocabulaire pour me le dire, c'est dans ma famille. Ils n'ont pas été chez mes amis, ils n'ont pas été longtemps à l'école. Et alors je me souviens que quand j'étais petit, effectivement, j'avais des orchestres, je dirigeais des orchestres imaginaires, je ne connaissais pas la musique, je n'entendais pas, puisque j'allais pas encore à la cathédrale, puisque j'étais trop jeune pour chanter à l'église, mais j'avais écouté peut-être la musique de bal l'été, comme ça. Puis J'inventais des musiques, je m'en souviens très bien maintenant. Je chantais, donc je dirigeais. Je dirigeais, je disais, attention, ça, le trombone ou le trompette, c'est pas comme ça. Alors j'allais à sa place, que j'imaginais, puis je dis, voilà, on dit comme ça, il faut pas se tromper, il faut faire un papapa, comme ça. Alors. Et je pensais que tous les gens allaient manger, marcher, danser, aller au bain, et chanter, et diriger des orchestres. Et un jour, je me suis aperçu, un peu plus tard, que j'avais ce défaut, cette qualité, je ne sais pas, en tout cas cette maladie de particulière que d'autres n'avaient pas, la musique. Et je me suis caché. Je me suis caché parce que l'artiste est toujours à descendre demain matin. Vous savez, les marginaux, le texte n'aime pas ça. Hein. Le texte, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là là-haut ? Chut, avec nous. Ou alors, descendons-le. C'est vrai. Et dans ma famille, les amis, tout ça, un artiste, ça fait rire un peu.
En 1924, à l'Opéra de Monte-Carlo, il se passait encore des choses, parce que c'était animé par un type qui était un type, peut-être un personnage, qui s'appelait Raoul Gainsbourg. C'est lui qui s'était démerdé pour faire copier, je dis ça en parenthèse, la partition d'orchestre de Parsifal au moment, dont à la fin du 19e, au moment où Parsifal c'était Bayreuth, un point c'est tout, et où Wagner avait défendu qu'on sorte, qu'on joue ailleurs. Lui s'était démerdé pour faucher la musique, enfin faire copier. Il avait créé Parsifal à Monte Carlo, c'est-à-dire le personnage que c'était. Aujourd'hui c'est terminé tout ça, là-bas il n'y a plus rien. Et on a créé l'enfant et le sortilège de Ravel. Moi j'étais enfant. J'avais 8 ans.
Un morceau fait pour toi.
Oui, et mon père était au casino et mon oncle était secrétaire du théâtre. Et un jour, un matin, ils m'ont fait rentrer à répétition. Il y avait au pupitre de chef d'orchestre Victor de Sabata, qui était le fils du chef des chœurs qui s'appelait Amédée de Sabata, qui était à Monte Carlo.
Mais Victor de Sabata, il faut le dire, était un très très grand chef.
Victor de Sabata était un grand chef. Et il avait reçu, quelque temps avant, je l'ai su après, la partition et le matériel d'orchestre de l'enfant, paraît-il, qui était bourré de fautes de copistes, etc. Ça a été un travail incommensurable. Et j'étais dans la salle, tout petit garçon, dans un fauteuil, et j'ai vu Sabata qui s'est retourné vers Ravel, et Ravel lui a le congratulé, lui a dit, mais bravo, comment vous avez fait, parce qu'il dirige, Sabata dirigeait cette œuvre nouvelle par cœur. Et il faisait corriger les fautes. Il les entendait tout de suite, il connaissait l'œuvre par cœur. Et à un moment, Ravel m'avait vu comme ça, moi j'étais, il m'avait souri. Voilà. C'est pour moi un souvenir important.
Sourire de Ravel.
Oui.
C'est un musicien important. Ça veut dire quoi?
C'est énorme.
Énorme?
Ah oui. C'est un type seul. C'est ça qui me fait drôle chez ce type. Il était seul. Sa vie. On ne connaît pas une femme. Et je l'admire. Dans son sens, pour ça aussi.
Je crois qu'il faudrait qu'on parle tout de suite du pourquoi du Coriolan.
Ah oui, écoutez, alors moi j'étais. Je vous ai dit tout à l'heure que mon oncle était secrétaire général du théâtre de Monte-Carlo. Donc c'était en 32. Mais un peu avant, j'étais plus jeune. J'étais petit garçon, quoi. Alors, quand j'étais venu du collège, j'avais peut-être 10 ans. J'avais été à une répétition. Je m'intéressais à ça. Il faut croire que ça me travaillait. Et il m'avait mis dans la loge du pompier, sur la scène. Et on me disait la loge du pompier avec des grilles derrière, parce que le pompier qui venait là pour voir un peu ce qui se passait. Et il y avait Toscanini qui avait une répétition. Je crois qu'il y avait la mère de Bussy, puis quelque chose, quoi. Moi, je ne connaissais pas du tout ces choses-là, moi, du tout. Je ne savais pas qui était de Bussy, je ne savais rien du tout. Et le Toscanini, on disait qu'il ne voyait pas, mais il m'a vu dans la petite cabane. Il est venu me chercher, et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Un italien, hein. Et je dis, je suis venu écouter votre musique, monsieur. Il me dit, non, là, la mia musica, vieni. C'est pas ma musique. Viens. Il m'a pris par la main, il m'a assis à côté de lui, il m'a dit, maintenant, tu vas écouter Coriolano de Beethoven.
Écoutez-moi, mon réveil à la musique, ça a été en participant. J'avais peut-être 7 ans. Oui, parce qu'après que j'ai été au collège, il n'était plus question de chanter à Monaco. J'étais soprano à la maîtrise de la cathédrale de Monaco, qui était connue dans le monde de la musique, de ce genre de musique, parce qu'il y avait le type qui dirigeait cette mairie, qui s'appelait le Perruchot, le chanoine Perruchot, type connu pour les histoires de maîtrise et de musique d'église. Et je chantais. Et bien là, j'ai découvert la musique. Vous savez pourquoi? Parce que il m'avait appris à lire la musique, un peu le solfège. J'avais ma partie de soprano. Et à ce moment-là, j'entendais les autres voix. Il y avait au moins 3 autres voix, c'est-à-dire l'alto, le ténor et la basse. Et j'ai découvert la musique en écoutant les voix comme ça. C'était extraordinaire. Moi, quand j'ai appris la musique, malgré moi, quand j'ai connu la musique, je prenais froid un peu parce que j'avais ma vieille pèlerine, j'allais à la maîtrise avec les larmes aux yeux.
Vous avez accédé à la musique très jeune, donc vous avez fait des études de musique. Comment ça s'est passé?
Non, moi je dis tant que je suis vraiment autodidacte.
Pourtant, vous êtes autodidacte, mais vous savez quand même ce que c'est que vous écrivez la musique.
J'ai tout appris, hein. Oui, oui. Mais tout seul. J'ai pris des leçons un moment avec un type pas mal, mais qui était pas un prof en définitive. Il me parlait beaucoup. C'était un type qui s'appelait Léonid Sabaniev, qui était à Nice.
Il était professeur de piano, d'harmonie.
Il était professeur de tout. C'est un musicien très très trapu, pas mal, qui avait été critique en Russie, critique musicale, et puis qui s'était retiré à Nice, je sais pas pourquoi. Et ce type, il avait des tonnes de musique comme ça. De musique un peu. C'était un élève de. Il avait été élève de Scriabine, vous savez. Et il avait des tonnes de musique. Alors je regardais ça, ça me faisait froid dans le dos. J'ai dit, mais. Et j'ai eu avec l'impression vraiment nette que ce serait jamais joué. Et depuis, ça fait 25 ans maintenant, on n'a pas jamais entendu parler de ce type, quoi. Des partitions, des paquets comme ça. C'est triste, vous savez, la musique.
Alors vous avez appris l'harmonie, le contrepoint. L'orchestration.
Oui, alors maintenant j'invente des professeurs. Parce que si je dis que j'ai pas appris, que j'ai. Évidemment, l'orchestration, ça s'apprend avec les grands orchestrateurs. Berlioz, Rimsky, Ravel, Stravinsky. Mais maintenant je dis que j'ai des professeurs, je nomme des professeurs d'origine étrangère, bien sûr, ça on ne peut pas contrôler. Parce que si je dis que j'ai appris la musique tout seul comme ça, on se dit, tu comprends ce musicien de variété, ce mélodiste.
À l'âge où l'on met des blousons, moi j'endossais ma vieille pèlerine, comme un berger vers ses moutons, et les bergères. Il imagine ma vieille pèlerine. T'étais d'un drap à bon marché, d'un bleu lavant d'un peu passé. Tu m'enveloppais comme une tendresse dans le pic matin de ma jeunesse. T'étais pâtissé par Boussac. J'ai même pas une photo Kodak pour leur faire voir comment j'étais quand tu m'emmitouflait ma vieille pèlerine, ma vieille pèlerine. À l'âge où l'on roule en scooter, moi j'enfourchais ma vieille bécane, une Pajoujo, une cavalière, d'avoir le guidon en oreille d'âne, ma vieille bécane. T'étais d'un acier d'à peu près, avec de la rouille dans les trous de nez. Tu promettais des découvertes au bout de la rue à peine ouverte, sur les miracles du goudron où se traînaient les petits garçons qu'on ne lavait que le samedi soir. Encore fallait-il être bien loin, ma vieille bécane. Ma vieille bécane. À l'âge où l'on fait des béguins, sans que ça vous coûte le moindre sou, moi je caressais le petit lapin que je trouvais à mes rendez-vous. Mon petit lapin, t'étais tout gris comme l'illusion. Quand l'illusion a changé de nom et qu'elle s'allume comme une tristesse sous la vérité qui nous blesse. T'avais même pas de quoi réchauffer mon petit cœur qui battait le pavé. Ni rien, ni serment, ni blasphème, ni rien, nul espoir et pas même ma vieille pèlerine, ma vieille pèlerine.
Pour certains, vous passez pour un révolté, vous passez pour quelqu'un très en marge de la société. D'où vient cette révolte? D'abord, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est sincère?
Vous savez, si ce n'était pas sincère, j'arrêterais de faire ce métier immédiatement. Bon, je pense que cette révolte vient de beaucoup plus loin, ça remonte à mon enfance, parce que j'ai été dans un collège pendant 8 ans. Et j'ai été moralement très malheureux. J'avais 9 ans, un soir on m'a lâché dans un dortoir où il y avait 40 petits garçons comme moi qui allaient dormir pendant des mois dans un dortoir.
Vous imaginez ce que ça représente pour un enfant de 9 ans et demi rentrer dans un dortoir et où il y avait 40 lits, n'est-ce pas? Avec des numéros au-dessus des lits, c'était le numéro 38. Ça nous guette d'ailleurs, le matricule.
Et je quittais ma mère, et puis mes tantes, et puis mes copains, et puis mes oncles. Et j'avais un grand-oncle qui était horloger, que j'ai beaucoup aimé, puis un autre qui n'était pas horloger, qui buvait un peu. Et c'était un type très bon, très gentil, et qui aimait beaucoup les chiens. Il avait un chien qui prenait le tram tout seul pour aller le rejoindre quand il fallait, et puis il changeait de tram quand il fallait à l'arrêt.
Le chien?
Le chien, oui. Le chien, il changeait. Vous savez, il fallait changer, quoi. Alors, le chien changeait, c'est incroyable. Tout le monde le connaissait. On regardait changer, le chien changeait de trame, quoi. C'était noble, c'était princier. Ouais. Eh bien, donc, tout d'un coup, j'ai été dans un collège religieux. J'ai été totalement bouleversé et j'étais un garçon docile. Tout ça rentrait dedans. Et puis alors, il y avait dans mon visage et dans mes yeux, il devait y avoir quelque chose qui n'était pas volontaire, qui fait que je devais produire, c'est-à-dire fabriquer de l'antipathie, sans le vouloir. Ça, j'insiste bien, parce que quand on me dit « tu regardes les gens méchamment », c'est pas vrai, jamais. Ou alors c'est très gros. Je fais des mines terribles. Mais je fais du cinéma, quoi. Je suis un acteur. Bon, donc, c'est du vent, quoi. Bon, la frime. Eh bien, ça m'a été. Ça m'a fait beaucoup de tort. Vous savez que j'ai toujours été battu moralement, dans le bien. J'ai été très seul. Et je me suis. C'est là où j'ai dû apprendre la révolte, parce qu'il n'y a pas de problème. Si je n'avais pas été dans ce collège, je crois que je ne serais pas un révolté.
On faisait la prière avant de manger. Mon Dieu, bénissez la nourriture que je vais prendre, faites que j'enfance un bon et saint usage. Si vous saviez ce qu'on mangeait parfois, une morue dégueulasse avec du riz horrible, faites que je fasse un bon et saint usage de cette morue ignoble et de ce riz à ne pas faire. Vous comprenez? Ça, c'était pas possible. Et ça m'avait marqué. Et on ne parlait que le samedi soir, que le jeudi. À midi et le dimanche. Sinon, on faisait la lecture. Et nous faisions, nous autres, la lecture au fur et à mesure. Et le lecteur, quand il devait changer de voix, c'est-à-dire quand c'était l'autre qui devait prendre sa place, il y avait une sonnette, on sonnait comme ça, l'autre se levait, il interrompait sa bouffe, et il allait continuer le livre. Toujours des livres, évidemment pas des livres érotiques, ni Voltaire, ni Mallarmé, ni Diderot, mais les livres de ces gens-là, quoi. Les livres contrôlés par l'imprimature.
Et qu'est-ce que vous faisiez là dans le collège? Vous encaissiez simplement ou est-ce que déjà vous arriviez à manifester votre révolte?
Non, vous savez, c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait pas manifester de révolte, c'est pas possible. On pensait même pas pouvoir manifester de révolte, et c'est une chose que je regrette, car j'allais à la messe tous les matins. La messe, pour moi, c'était devenu un endroit comme la... je sais pas, comme le football, enfin... vous comprenez, ça m'intéressait pas du tout. Et alors, il fallait que je sois pas dans le coup. Et pour pas être dans le coup, il fallait que je me sorte... Dans l'esprit, pour l'esprit du monsieur qui était sur une stalle, qui regardait, ça, c'était l'Inquisition. Hein? Et quand les autres étaient debout, je restais à genoux. Quand ils étaient assis, je restais à genoux. Quand ils étaient à genoux, après, j'étais assis. Ça fait qu'un beau jour, j'ai disparu totalement. J'étais plus dans le coup, parce que, vous savez qu'on faisait la communion. Alors il y avait les zélés, les petits mecs qui faisaient la communion tous les jours.
Ils auraient presque demandé du rabiot, ceux-là.
En regardant, en revenant, en fermant les yeux, vous savez. Et puis, il y avait le dimanche, alors c'était pas possible, parce que le dimanche, c'était la fête, alors tout le monde faisait la communion. Alors moi, j'étais arrivé à ne pas faire la communion, même le dimanche. Alors j'étais devenu le mécréant dans l'esprit de certains de ces personnages en noir, je les appelais les corbeaux un peu pis, parce qu'ils avaient des machins blancs. Eh bien... je ne sais pas où je voulais revenir. Voilà, je lisais. C'est là où j'ai lu des tas de bouquins formidables. C'est là où j'ai lu Voltaire. C'est là où j'ai lu même l'incroyable Mallarmé, n'est-ce pas?
J'ai été à la messe tous les jours pendant 8 ans, sauf les vacances, bien sûr. Et c'est énorme, ça, vous savez. Et moi, du premier jour, je me suis extrait de ça. Je lisais, j'ai lu les Voltaire jusqu'à Mallarmé à l'église, vous voyez, en douce, comme ça, dans le livre de prière. Je mettais des petits extraits. C'est intéressant, vous comprenez? Et quand je pense à ça, je suis content.
J'allais faire la communion. Ah, bon, faire la communion, vous savez ce que c'était la communion, il fallait aller se confesser, etc. Et puis, on nous avait dit, si tu bois un peu d'eau le matin, ou si il y a quelque chose, ouais, c'est fini, tu es en état de péché mortel, si tu fais la communion, si tu communies comme ça. Le péché mortel, que ça veut dire? Ça veut dire que si tu meurs, tu vas en enfer. C'était abominable, n'est-ce pas, de dire ça à des jeunes enfants susceptibles de le croire. Moi, je n'ai jamais tellement cru, ça, c'était devenu une sorte d'habitude, de choses obligées, mais ça, il m'arrivait de faire la communion. Bon, après, je faisais exprès de boire de l'eau pour être en état de sacrilège, n'est-ce pas? Je ne le disais à personne, bien entendu, mais ça me réjouissait de savoir que j'étais en état de sacrilège et que j'allais faire la communion.
Alors déjà, à ce moment-là, au fond, cette carapace de solitaire, vous commencez à la construire, à la bâtir autour de vous. Vous vous isolez un petit peu des autres. Surtout, oui. Vous avez un courage qui est énorme pour un gosse de cet âge-là. Et un gosse soumis quand même à une force du milieu écrasante, il faut bien dire ce qui est, dans le genre de collège que vous nous décrivez. Vous avez quand même le courage de ne pas abdiquer, de ne pas devenir le petit passif dont vous parliez tout à l'heure, et d'être celui qui lit Voltaire dans son livre de messe.
Oui, mais alors, vous allez, je m'excuse, hein. Allez-y. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, qui est une chose importante, dont je me suis lavé, n'est-ce pas? C'est le péché. Car ces gens-là, vous apprenez le péché. Le péché, c'était abominable, n'est-ce pas? On se confessait toutes les semaines, n'est-ce pas? Je me rappelle, il y avait un abbé qui sentait mauvais de la bouche, c'était affreux. Alors, il n'y avait pas de gris, n'est-ce pas? Je dis tout, je m'excuse. Il n'y avait pas de gris, alors... ce type, on recevait sa manne plein là. Hein? Bon, je faisais sacrilège, je mentais à la confession. Hein? J'allais dire confection, c'est bizarre.
Vous confectionnez des mensonges.
C'est ça, ouais. Je mentais. Et puis, j'avais fini par communier. Le matin, je bougeais des dentifrices ou je buvais de l'eau parce qu'il ne fallait pas. Vous comprenez, hein?
Absolument.
Et vous savez, je crois que pour moi, la grande chance, c'est d'être sorti du péché. Mais si j'étais pas sorti, si je ne m'étais pas sorti du péché, j'étais un petit foutu, quoi.
Mais les relations, dans la cour de récréation, l'entente avec les copains était bonne, mauvaise? Vous pouviez jouer avec eux ou leur jeu vous paraissait sans intérêt ou enfin...
Quelle horreur, les copains, quelle horreur. Mais il y a une chose aussi qui a été importante, c'est le football. Ça, alors, c'est une abomination. Vous savez qu'on m'a obligé, moi, à jouer au football pendant 8 ans. n'est-ce pas? Pendant 8 ans, j'ai joué au football, n'est-ce pas? C'est horrible, le football. Quand on parle du football, parce que certains puristes disaient la balle au pied, n'est-ce pas? Il y a certains
bien profs sûr.
Qui disaient... la balle au pied, la balle au pied.
Pourquoi alors, pas pédosphérone, par exemple?
C'est ça, oui, c'est ça. Et alors, j'étais... Je ne pouvais pas supporter ça, n'est-ce pas? Alors, j'étais obligé de faire semblant de jouer au football. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de faire semblant de jouer au football pendant 8 ans. Et quand c'était pas le football, c'était ou les échasses, ça c'était plus marrant, et puis la garuche. Vous savez ce que c'était que la garuche?
Eh ben non, je sais pas ce que c'est.
Ben, la garuche, c'était une lanière, comme ça, en très gros tissu. N'est-ce pas? Et avec la lanière, la garuche, c'est une sorte de sadisme bien installé avec le mec qui regardait. Ce sont des personnages curieux, ces hommes en noir.
Quand j'étais petit, j'allais au collège, et en descendant vers le collège, ma mère m'accompagnait à la gare et je voyais des chevaux. Et combien de fois je disais, allez, prends ma place, et je prends la tienne.
J'avais prétendu que j'avais mal aux pieds, tout ça, comme ça, le samedi, ma mère me permettait, me disait de venir à la maison pour passer la nuit à la maison. Je quittais le collège, je faisais 30 km en train, alors quand j'arrivais dans ce train, c'était fantastique, ce train, c'était...
C'était la liberté.
Je retournais de la Chine, quoi, parce que j'étais rentré en Chine à 30 km de chez moi, quoi. Et alors je rentre, dans ce train un soir, et dans le wagon, il y avait personne, et dans les compartiments, évidemment personne. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré, j'ai fermé le compartiment, et je me suis mis à sangloter en dirigeant un orchestre. Alors là, ça m'a... Je le raconte maintenant, jamais je l'ai raconté. Vous comprenez que je suis pas rentré à la maison en disant ça, hein?
Écoute, moi j'allais au collège, j'avais 10-11 ans, le soir il y avait un mec qui venait dans les classes, il faisait comme ça, autour de rôle, il faisait comme ça. Si j'étais à l'écart, alors tout le monde, si vous voulez pisser, ils allaient pisser. Hein? Alors quand j'étais un peu plus grand, une fois je fumais un demi-mégot, puis après ça on puantait toute ma chair, on me découvrait tout de suite, c'était la merde. Bon, arrivé, tac, tac. Alors je disais aux copains, même si vous n'avez pas envie de pisser, j'ai eu 2 ou 3 copains, venez avec moi, on va au fond de la cour. Et au fond de la cour, il s'asseyait de moi pendant 10 minutes, quoi. Le temps d'avoir l'air de pisser. Et puis après, on rentrait, puis on allait manger à 8h15, le soir. Et alors, je m'asseyais et je chantais, mais j'improvisais de la musique, comme ça, avec ma voix, quoi.
Pour tes 2 copains.
Pour mes 2 copains. Là, je savais déjà. J'avais 10-11 ans, je savais déjà que j'étais seul dans mon quartier à faire des choses comme ça. Mais quand j'étais un peu plus petit, je pensais que les gens, ils faisaient tous comme moi. On allait au bal, je les voyais aller danser, puis il y en a qui mangeaient, puis il y en a qui marchent, puis il y en a qui dorment. Alors moi, je faisais comme eux, je mangeais. Et puis en plus, je pensais qu'ils chantaient comme moi. Et non, ils chantaient pas. Et voilà, tu comprends? Ils chantaient pas, et moi je chantais. Et ce jour-là, j'étais seul.
Vous écoutez le Ferré Club hors série à l'occasion des 110 ans de Léo Ferré sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Maman venait me voir tous les 15 jours. Quelle fête cela a été pour moi quand je la voyais arriver dans la cour. Je l'avais tant guettée depuis 3-4 jours. Elle me sortait et m'emmenait dans une crèmerie où je buvais un chocolat bouillant et soufflé avec de la crème. Un jeudi, dans cette boutique à croissant chaud, j'ai découvert la musique, comme ça, bêtement. La radio jouait, et elle jouait bien. Cette chose miraculeuse qui sortait de la boîte, c'était la 5e symphonie de Beethoven. La crèmerie, ma maman, la musique. Je n'étais plus en prison. J'étais avec les anges.
peut quand même raconter cette anecdote. Si vous pensez encore aujourd'hui qu'elle est importante, cette anecdote de la rencontre avec la cinquième de Beethoven dans la crèmerie, on peut la raconter, sinon on passe à autre chose.
Mais c'est pas important pour moi, vous savez.
Oui.
Oui, parce que les gens ne peuvent pas imaginer l'impression que j'ai eue ce jour-là. Ma mère venait me voir de temps en temps. Un jeudi, elle était venue nous voir. Lorsque ma mère venait, j'étais content. J'allais pas à la promenade avec les autres. J'allais me promener avec ma mère. On allait du collège jusqu'à... c'était le village de Bordiguerre, était à 3 km. J'allais à pied avec elle. Elle m'amenait dans une petite crèmerie. Je reconnaîtrais, bien sûr, aujourd'hui, le même vieilli, bien sûr, ce monsieur qui m'apportait le cappuccino, c'est-à-dire le chocolat avec la petite crème. Et... il y avait une radio, une des premières, donc c'était donc là, ça c'était en 1929, quoi. Hein. Et de cette radio sort une chose magique, un truc extraordinaire, quoi. Le castor, qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte, le bon Dieu, le crépuscule, l'amour. Le début de la cinquième de Beethoven, et je me suis mis à pleurer immédiatement. Et... en étant un peu étonné. Et ma mère me dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, petit? Alors je dis, parce que tu vas t'en aller tout à l'heure. C'était pas vrai. Bien sûr, ça m'embêtait que ma mère s'en aille. Mais ça ne me faisait pas pleurer. Et j'ai eu honte de lui dire que je pleurais à cause de cette musique. Bon, pour moi, c'était quelque chose de défendu absolument. Quelque chose qui me faisait pleurer comme ça, instantanément, sans que j'aie pu l'imaginer une seconde.
Et là, il y a eu une rencontre avec la musique où ça a été un accident qui allait annoncer la suite.
Non, mais c'était... je me suis intéressé.
La portée de cette anecdote, immédiatement.
Confusément, j'ai dû comprendre que j'étais musicien, mais moi, je pensais, quand j'étais petit, que tout le monde était musicien comme moi, vous savez. Un jour, je me suis aperçu que je n'étais pas fait comme tous les autres, qu'en plus de ce que les autres respiraient, mangeaient, allaient se promener, allaient au football, je ne sais quoi, allaient voir les résultats du Tour de France. Et puis, moi, en plus, j'avais de la musique. Vous comprenez? Un jour, je me suis aperçu que j'avais cette chose en plus. À ce moment-là, je me suis caché. Voilà, c'est sûr. Et ça dépend aussi de l'histoire. Je me suis caché malgré moi de ma mère, vous voyez? Et ça n'a pas été... ça a été vraiment... ça a été l'improvisation de la biologie. Il n'y a pas de problème. Hein.
Je vous ai quitté hier soir à 9 ans et demi, dans le train qui me conduisait au collège, en 1925. Pour arriver à ce collège, il fallait passer une douane à une vingtaine de kilomètres de ma maison, de mes remparts. Ma maman avait mis dans ma petite valise 6 bananes, ce qui, pour le régime qu'allait être le mien désormais... ne constituait pas une provision formidable, mais simplement une provision d'amour maternel. Eh bien, on allait se charger de me contrôler. Les frontières sont faites par les hommes pour les contrôler. On contrôle la drogue, l'or, les sous, les grandes personnes. On contrôle aussi les enfants et les bananes. Du moins, c'est ce que l'on faisait à cette époque-là, et à cette frontière précise. Un douanier voulut me confisquer les 6 bananes. Je refusais. Et soudain, envahi d'une sainte colère et conduit par un réflexe d'adulte, je pelai les 6 bananes et les mangeai sous l'œil terrifié de cet imbécile qui fut pour moi le premier représentant de ce qu'on appelle la société. Je laissai les pots en tas sur son comptoir. Ce fut là mon premier geste d'homme. Dès lors, je saurais me défendre.
Il y a ce que vous appelez le premier acte d'homme, l'histoire des bananes à la frontière.
Oui. Oui, ben là, c'était étonnant de ma part parce que j'étais... un enfant très, très docile, un peu renfermé. Malgré l'œil, paraît-il, il paraît que j'avais un regard qui était inquisiteur et je ne le savais pas. Enfin, il y avait, c'était la période du fascisme. Donc c'était en 1920, j'avais un an que j'étais là-bas, c'était en 1926-27. Et il y avait une, pour les bananes, il y avait une sorte d'interdit. Et je crois que les Italiens prétendaient... prendre les bananes depuis l'Afrique, cette Afrique où ils ont voulu s'installer, quoi. Mussolini a voulu s'installer. Et alors, ma mère m'a donné 6 bananes, parce qu'on ne pouvait pas en trouver en Italie. Et 6 bananes, c'était important, ça me faisait manger des bananes tous les jours, pendant 6 jours. J'aimais bien ça, et évidemment, au collège, il n'y avait jamais de bananes. Alors, je suis passé à la douane, et le douanier a vu les bananes, il m'a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, les bananes. Alors, il voulait me faire payer. Alors j'ai pris les bananes, l'une la suite de l'autre, je les ai toutes mangées, et en lui disant,
les pots, vous pouvez les garder. Ce qui était étonnant, c'est pas ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait à cet âge-là. Et ça m'avait frappé. Je vous le raconte parce que des fois, les mômes me font entendre leur voix, quoi.
Est-ce que c'est, on peut appeler ça un acte de révolte ou de distance par rapport à la vie?
Peut-être, je crois que de ma part, en tout cas, c'était peut-être un acte de distance à l'égard de ce type.
Il y a un peu du mauvais esprit, quoi. En fait,
non.
Avant que ce soit de l'esprit critique, non.
Non, je pense pas, non.
Non.
C'était vraisemblablement pas de l'esprit critique. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Dans tous les cas, c'était... c'est comme ça. Les peaux, tu peux les manger. Moi, je mange le reste, quoi. Et évidemment, ce que j'ai compris confusément, c'est que je pouvais transporter, passer les bananes dans mon estomac et pas... normalement dans le sac que m'avait donné ma mère dans lequel elle les avait mises, quoi. C'est ça que j'ai compris confusément et je l'ai fait, quoi. Et le type était furieux, bien sûr, il n'a rien pu me dire. En plus, j'étais jeune et il n'a pas osé non plus.
Quand Mussolini a pris le pouvoir, l'institution,
moi, j'en souviens,
l'institution du fascisme en Italie, c'est à date de 1922.
Oui, mais enfin, où ça a commencé à être terrible, c'est quand je suis entré au collège, c'était en fin 1925-26.
Voilà.
Ou alors là...
T'étais pas loin, toi.
J'étais pas loin, mais j'étais tout de même en Italie, et puis je passais, puis j'avais la haine de ces types, ils me faisaient peur. Les fascistes, ça se voyait, et on disait, on m'avait toujours dit, tu sais, si, les fascistes, ils te donnent l'huile de ricin. Tu sais qu'ils donnent l'huile de ricin avec l'entonnoir à des gens, c'était une façon de torturer les gens. Je sais pas si tu as jamais bu l'huile de ricin de ta vie, le matin à des potrons minés, mais quand on donne de l'huile de ricin pour te faire causer, crois-moi que tu vas causer... avec la glotte huilée, quoi, des grasses, hein. C'est dégueulasse. Et au fond, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que les gens admettent tout, en définitive. Quand ils en parlent maintenant, ah, l'huile de ricin, ça les fait rire, probablement parce qu'ils n'ont jamais pris l'huile de ricin, quoi. Oh. Ils étaient tous en noir, ils se faisaient peur, c'était le type des bananes, au fond, le douanier qui m'avait fait bouffer les bananes.
Ça, t'avais 9 ans et demi.
Oui,
qu'est-ce
oui.
que t'allais foutre en Italie à l'époque?
Parce que en Italie, il y avait la congrégation qu'on appelle les frères des écoles chrétiennes. Depuis 1904, là, de Combes, il devait être en pantalon, si j'ose dire. Je veux dire que pas en soutane en France. Ils ne pouvaient pas non plus exercer leur métier d'éducateur, entre guillemets. Et en Italie, oui. Alors, ils avaient acheté un collège à 20 km de la frontière, qui s'appelait le Collège Saint-Charles, où il y avait des études de langue française, quoi.
En Italie.
En Italie. À 20 bornes de chez moi, pour moi, c'était le bout du monde. Parce qu'il y a cette putain de frontière à passer.
Quand j'étais môme, à la radio, on jouait Please, Pinot Vendor, c'est bien d'accord. Quand j'étais môme, les filles avaient une fleur exquise qu'elles nous fanaient pour deux baisers. Quand j'étais môme, on avait aussi nos idoles, Daniel Darieux, on ne fait pas mieux. Quand j'étais môme, on faisait marcher nos belles guiboles dans les dancing et dans le smoking de papa. Quand j'étais môme, la musique coulait comme du miel à Europe 1 sur les copains. Quand j'étais môme, les filles qui étaient encore pucelles, on les mettait dans un musée. Quand j'étais môme, on avait aussi nos idoles, c'était Johnny ou quoi. Ou qui, quand j'étais môme, on faisait du rock et de la bricole un peu partout avec les sous de papa. Quand tu seras môme, tu sur des planètes distinguées, on t'apprendra le temps d'aimer quand tu seras môme. Les filles auront la voie lactée et des comètes dans le tablier quand tu seras môme. Sur ton palier en guise d'idole, une nébuleuse ou Bételgeuse. Quand tu seras môme, on t'apprendra la bonne parole, la bonne recette pour jamais être papa. Il n'y aura plus de môme, il n'y aura plus rien, pas même un chien, un pauvre chien, un pauvre chien. Il n'y aura que du vent et plus d'amants, il n'y aura que la lune qui fera le tapin pour les savants, pour les savants, pour
Cela dit, vous savez, vous me parliez de quoi parlait-on, des choses comme ça qui se passent. On était moins agressés par les nouvelles du monde parce qu'on ne le savait qu'assez en retard. Il n'y avait pas de radio. C'était le début de la radio en 29-30. Moi, je me souviens, j'avais un oncle qui avait une radio comme ça. C'était intéressant parce qu'il me faisait découvrir des choses. Et elle marchait avec des batteries, comme des batteries de voiture. Et à cet oncle-là, ce vieil oncle, c'était l'oncle à ma mère, j'avais demandé un jour, dis donc, quand est-ce que ça marchera avec le trou dans l'électricité, où il y a l'électricité. Et il m'a dit d'une façon tout à fait, ah, ça alors je ne sais pas quand, comme c'était une chose qui n'allait pas vraisemblablement arriver très tard ou pas du tout, vous comprenez. Donc, l'autre jour, je racontais à mon fils, qui est au courant des choses comme ça, par la télévision, tout ça. Je lui dis, tu sais, lorsqu'il y avait il y avait le Tour de France, on parlait du Tour de France, mais je me souviens, j'étais sur les remparts à Monaco, là où il y a le Palais du Prince, il y a des remparts, c'est là où je m'amusais, il n'y avait pas de voiture à ce moment-là qui passait, on m'autorisait, on me laissait dans la rue, donc sur les remparts. Eh bien, je me souviens que, donc en 1925, 23, 24, on descendait à la Condamine, on descendait les escaliers, pour aller devant le journal qui s'appelait L'Éclaireur, de Nice et du Sud-Est, pour attendre les résultats de l'étape que le type de l'agence de Monaco de ce journal devait recevoir par téléphone. Et vous vous rendez compte, maintenant, ça n'a plus rien à voir, vous comprenez. Donc, on s'intéressait aux choses que lorsqu'on voulait bien, en définitive. On n'était pas au courant des choses. S'il y avait une révolution quelque part, on ne le savait que 15 jours après, j'imagine, ou par les journaux, mais moi je ne lisais pas les journaux. De toute façon, on ne parlait pas de tout ça à la maison.
1927, un autre fait divers.
Oui.
Mais enfin, c'est un fait divers. C'est un
fait historique extraordinaire.
Lindbergh.
Oui, alors là, moi je m'en souviens très bien parce que...
Ah, tu avais 11 ans.
J'avais un oncle qui avait une radio, qui était un horloger, et qui avait une radio, il aimait beaucoup ça, il avait une radio avec des tas de boutons, moi j'adorais ça. Et on avait écouté date d'émission à ce moment-là sur l'arrivée de Lindbergh, et c'est extraordinaire. J'en parlais il n'y a pas tellement longtemps, je disais que Lindbergh était vraiment un héros extraordinaire, c'était un plus grand héros
que les cosmonautes.
J'aime pas les héros, enfin, que les cosmonautes par exemple.
Beaucoup plus.
Oui, beaucoup plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Les cosmonautes, ce sont des agents, en quelque sorte, des collaborateurs d'une certaine technique poussée à ses extrêmes limites, enfin, tout au moins aujourd'hui, quoi. Mais lui, il s'était construit un avion. Il avait un moteur. Et un beau jour, il est parti, comme ça, à 200 ou 300 mètres d'altitude. Il avait réduit au maximum même les victuailles pour que ça pèse pas trop. Et ce type, il est parti pendant 36 heures ou 40 heures, je crois, tout seul, comme ça, en se disant, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, en traversant pour la première fois l'Atlantique en 1927. Or, après, l'Atlantique, on l'a vraiment traversé que bien après la guerre. C'est devenu courant maintenant, évidemment, de traverser l'Atlantique. Alors quand je dis que c'était lui, c'était un héros beaucoup plus que les autres, on m'aurait dit, on est en disant, c'est pas vrai, c'est arrivé. Ne vous rappelez pas si vous aviez été petit à ce moment-là et que vous aviez su ça, c'était extraordinaire.
Parce que c'était vraiment un sujet de conversation entre les gosses de ton âge. À 11 ans, vous en parliez. Enfin.
Forcément, parce qu'en même temps, il y a eu l'histoire de l'injuste Récolli qui était partie dans le sens contraire, ce qui est beaucoup plus difficile. En tout cas, de toute façon, maintenant, quand on va dans le sens Europe-Amérique, on met plus longtemps. Donc, il y a des questions de vent contraire. Et à ce moment-là, c'est encore plus dramatique. Et Jesse Récolli n'était jamais revenu. Et puis, j'avais un cousin qui était un type qui travaillait chez Nieuport et qui devait partir avec eux comme mécanicien. Il n'était pas parti parce que, je ne sais pas, dans les moments, il n'avait pas pu. Il ne serait pas là encore. Il vit toujours. Comme j'avais eu un oncle qui devait partir en 1913 sur un gros bateau qui devait faire parler de lui. Et puis, mon oncle était cuisinier. Il n'est pas parti. Le bateau, il s'appelait Titanic.
C'est pas vrai.
C'est vrai, je te jure.
Le Titanic.
Le Titanic. Et mon oncle était un élève du grand cuisinier qui s'appelait Escoffier, n'est-ce pas?
Et donc, vous avez. D'abord, il y a deux points qu'on peut tirer de cette petite conversation sur ce fait divers de Lindbergh, enfin, ce héros, si tu veux. C'est d'abord que tu as une nombreuse famille.
Non.
Parce que tu me cites des cousins, des noms, ben oui, ça vient de tous les côtés. Et puis, vous avez la baraka quand même, vous avez le pot. Non? D'abord, ton cousin qui devait partir avec Nage et Sericoli, il part pas. Et l'autre qui devait monter sur le Titanic, il part pas non plus. Le Titanic
non.
Est coulé, les Nage et Sericoli disparaissent.
Oui.
Ben vous avez la baraque, hein.
Ah, la baraque.
Et tu l'as, toi?
Je sais pas. Peut-être, oui. Bon, je m'emmerde pas trop dans la vie, quand même.
Anarchie, j'ai vu ça, j'avais 14 ans. Et moi, je ne savais pas que... Allez savoir pourquoi j'étais voir ce mot-là. Dans le dictionnaire Larousse, un petit dictionnaire comme ça, un tout petit. J'étais voir Anarchie, j'ai vu négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Hein? C'est aussi beau, aussi grand que l'amour. Et les gens ne savent pas ça. Négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Hein? Un type vient dire, fais ça. Non, je ne fais pas. Hein? Et vous aussi, je suppose.
Moi, j'ai volé une fois dans ma vie, mais en toute impunité. Et c'est une affaire très grave pour moi. Je n'ai jamais dit ça. Et j'avais, chez nous, à la maison, on a recueilli la femme du tonton horloger. Qui s'appelait Tante Marie, elle était venue chez nous à la maison. C'était une femme qui avait travaillé des années, elle repassait le linge des autres. Elle repassait le linge des autres, longtemps, comme ça, pendant des années, et elle gagnait 1,50 francs de l'heure, 2,50 francs de l'heure. Je vous parle, c'était en 1923-24. Elle est venue à la maison avec nous, elle était retraitée. Elle touchait sa retraite, une fois par an, elle avait touché 1,500 francs. 1,500 francs, c'était tout de même de l'argent. Mon père gagnait 400 francs par mois à ce moment-là, ou 800 francs par mois, je ne sais pas. Et un jour, je ne sais pas, j'avais 15 ans, dans l'armoire, je lui ai pris 500 francs. C'était énorme, c'était un vol abominable, n'est-ce pas? Et j'ai dépensé cet argent avec des copains à boire des apéros, des conneries, comme ça. Je faisais l'homme, quoi. Et quand on fait l'homme, il faut faire un truc dégueulasse. Quand on a 15 ans, il faut toujours faire un truc dégueulasse pour être homme, quoi. Tu comprends? Et cette femme n'a jamais rien dit. Surtout pas à mes parents, mais elle ne m'a jamais rien dit à moi. Elle savait que c'était moi. Voilà, j'ai volé une fois. Mais j'ai volé dans le cœur d'une femme. Et ça, c'est dégueulasse.
Tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, jeune à sa gueule, qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Radio Libertaire 89.4 FM, bien sûr, la voix de la Fédération Anarchiste, le Ferré Club en mode hors série ce soir, à l'occasion des 110 ans de Léo Ferré. Nous sommes le 24 août en direct 22h15, et voilà le premier pan de cette nuit qui est passé. Le tout premier, on en a encore pas mal devant nous, hein, puisque ce hors-série vous propose une narration de la vie de Léo Ferré par lui-même, hein, d'une certaine manière, jusqu'à demain matin. Voilà. On vient donc d'écouter Léo qui nous parlait de sa naissance, de son enfance, qui nous présentait un peu sa famille, qui nous parlait du collège à Bordighera. Et puis surtout en lui la musique qui commence à poindre d'une certaine manière, oui. Et puis ce caractère qui se forge chez Léo, voilà, donc raconté par lui-même. Avec les chansons suivantes dans la première partie que nous avons écoutées, la chanson L'enfance. Alors j'avoue que le travail préparatoire de cette émission s'est essentiellement concentré sur les bandes que je vous diffuse, et j'ai grandement négligé le travail de préparation des annonces des chansons. Donc je vais vous le faire un petit peu comme ça, à la... je vais pas prendre une expression trop vulgaire, non, on va le faire ça comme ça, de manière un peu hasardeuse peut-être, mais c'est pas impossible. Donc si vraiment vous voulez la date précise des chansons que nous avons écoutées et que nous allons écouter, je vous conseille d'aller vérifier ça sur des sources plus fiables que celle du gars qui est en train de parler là, c'est-à-dire moi-même. Donc allez, je vous fais à peu près de tête, on va voir. On a commencé par l'enfance, alors là c'est vraiment, en plus je commence par la colle complète. Donc allez, l'enfance, allez, je vous la fais entre 62, entre 62 et 65, chose comme ça. Je suis pas hyper formel. Après, il y avait la musique, un poème de Charles Baudelaire, là, cette fois-ci c'est 1967, c'est un peu facile. Enfin non, c'est un peu facile, non, enfin, c'est pas plus facile que les autres, il suffit de le savoir, enfin bref, je connais bien, donc je connais bien sa date. Ensuite, il y avait la vieille pèlerine, là c'est pareil, je dirais 62, mais peut-être 64. Hein, je suis pas formel, bon, enfin bref. Un court extrait de la symphonie numéro 5 de Ludwig van Beethoven, qui sera à peu près la seule musique qui n'est pas signée de Léo que nous entendrons ce soir. Dans quelques instants, enfin dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes, nous allons écouter un chanteur qui ne sera pas Léo Ferré, mais Léo sera au piano. Voilà, donc vous ne serez pas surpris ou surprise. Ce soir, on va écouter exclusivement Léo, il n'y aura pas de reprise, il n'y aura pas Jean-Baptiste Foulquier par exemple, il n'y aura vraiment que Léo, mais on entendra un chanteur des années 50 accompagné par Léo au piano, donc il y aura quand même Léo dans la partie, quoi, d'une certaine manière. Donc cette symphonie numéro 5 de Beethoven était interprétée par l'orchestre Les Dissonances, qui a cette particularité de jouer sans chef. Et ça, c'est pas mal quand même, hein, de remettre en cause l'autorité. Je pense que c'est une idée qui aurait pu séduire Léo, pourquoi pas. Ensuite, nous écoutions Quand j'étais môme dans une version en public au Vieux Colombier, qui date de 64. Donc la chanson doit être à peu près de la même période. Et enfin, 20 ans, qui doit être une chanson de 61. Alors, je crois ne pas trop me tromper. Voilà. On va poursuivre bien sûr cette évolution. On va entrer maintenant dans le deuxième temps, d'une certaine manière, dans la vie de Léo. C'est l'arrivée à Paris ou les arrivées à Paris. Puisque Léo va arriver une première fois en 1936, autour de là, 35-36, oui, quelque chose comme ça, pour faire des études de droit qui ne seront pas concluantes parce que quelque chose bouillonne en lui déjà, et bouillonne depuis qu'il est tout enfant, on l'a compris, c'est la musique. Et après la période de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, Léo va revenir à Paris une deuxième fois avec, cette fois-ci, ses velléités de chanteur, si vous me permettez l'expression. On va donc retrouver ce Léo au milieu des années 30, juste après le lycée, qui va donc nous parler de ses débuts dans la chanson, de ses premières expériences dans le music-hall et dans les cabarets. Et voilà, il va nous parler de tout ça, Léo. Allez, on le retrouve à ce moment-là. Radio Libertaire, le Ferry Club hors série ce soir, 89.4 FM, sans Dieu ni maître.
Je suis bon à rien. C'est la certitude que j'eus en sortant du lycée, nanti de mes deux bachots, et quand j'essayais de faire quelque chose dans la vie. Comme il faut commencer par faire quelque chose de ses 10 doigts, je fis 6 mois de stage dentaire. Comme ma sœur en faisait autant, nous pensions un jour nous installer ensemble. La fréquentation d'un cabinet dentaire et de son arrière-boutique, avec son arsenal de mâchoires portables, de dents bizarres, ne constitua pas pour moi une réussite. Cela dura 6 mois, comme je vous l'ai dit. Cela paraît assez court. Ce fut pour moi aussi long que la longueur des pires choses. Un siècle à contempler les possibilités de la mastication.
Non, mais alors je pensais que la musique, c'était quelque chose qui m'était défendu. Et j'ai tout fait, sans plus, pour ne pas faire de la musique. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai fini le bachot, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ma mère, ma sœur faisait les études dentaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais faire les études dentaires. J'ai fait 3 mois de stage dentaire chez un ami à mon père. Je me souviens, un matin, il y avait un ami qui était venu se faire soigner. Alors, le dentiste, pour me mettre un peu dans le cou, pour m'honorer, en somme, d'être son apprenti, il m'avait dit, regarde, tu prends ça, et puis c'est un jet, comme ça, c'est déjà une sorte de jet, comme on fait maintenant, c'est les choses qui se projettent, comme ça, tu mets près de la gencive de ce monsieur, je vais ouvrir la gencive, alors tu prends, puis tu recules, ça, tu l'endors, comme ça, tu endors, puis moi j'ouvre, alors je l'ai fait, j'étais très fier, je tremblais tellement que j'avais dans les yeux le liquide en question, et que le monsieur, il m'a poursuivi dans tout l'appartement, en voulant me taper dessus. Et bien sûr, j'ai laissé tomber, n'est-ce pas? Et j'ai été prof à ce moment-là, dans le collège où j'avais été élève, parce que le directeur manquait de prof et était venu demander. Je suis resté 6 mois.
Prof de quoi?
Prof de tout, de français, d'histoire, et même de... Je crois que c'était pas moi, c'était l'autre qui faisait ça, le catéchisme quand même. Oui, et puis après, j'étais faire mon droit. Donc je me cachais en définitive, vous voyez.
C'est le Ferré Club hors série à l'occasion des 110 ans de Léo Ferré sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Mon père m'acheta un billet de chemin de fer, prit pour moi une pension à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, et une inscription à la faculté de droit. Les oisifs, au sortir du bac, font du droit. Je fis donc du droit, oisivement, et les sciences politiques. Cela n'était guère plus réjouissant que l'art dentaire. Je n'avais pas la bosse juridique, mes camarades non plus, à part certains d'entre eux dans cette école où l'on apprenait à devenir fonctionnaire, certains qui se couvraient le chef d'un chapeau à gouttière appelé Iden et qui parlaient déjà comme des diplomates. « Cher ami, comment on va ?» Ce sont ceux-là qu'on retrouve plus tard dans les consulats ou à la Cour des comptes. Non, ce n'était pas mon milieu. Moi, j'allais au cinéma. Quand j'avais des sous, je courais les filles de mauvaise vie et je draguais dans la rue, comme ça, pour rien, et pour apprendre les hommes.
Quand j'étais étudiant en 36-37, j'allais le jeudi soir au Gaumont, Palace, cinéma, parce que à minuit, la nouvelle semaine commençait, c'est-à-dire qu'on rentrait à 9h du soir, et à minuit, il y a la séance la semaine d'après. C'est-à-dire que pour le même prix, on voyait 2 films. Et à ce moment-là, il y avait toujours des films extraordinaires, tous les grands films. Et un beau jour, le Quai des Brumes, comme ça. Et dans le Quai des Brumes, il y avait ce personnage du peintre qui s'appelait Michel, dans le Quai des Brumes, et qui est un personnage qui était interprété par le Vigan. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce film. Et, il y avait un type qui s'appelait Delmont, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, qui tenait une baraque dans la brume. Et ce peintre, qui était un peu un type mélancolique, un peu désespéré, et il a vu que le personnage du militaire qui avait déserté, qui était tenu par Jean Gabin, il a dit, tu diras à ce type qu'il peut être peintre, il pourrait peut-être être peintre, etc. Et il a laissé son costume et ses papiers et sur la plage, et il est allé se noyer. Et à ce moment-là, l'acteur qui tenait la baraque, je me souviens, ça faisait froid dans le dos. Il criait sur le port de Brest, Nord-Brest, je crois, sur la mer, il criait « Michel, Michel, faites pas de conneries, faites pas de conneries !» Et après, le militaire, donc Gabin, est revenu et l'autre lui a dit « Maintenant, tu es peintre, tiens. » Voilà ses habits et ses papiers. Mais ça, c'était du grand cinéma et c'était Prévert.
J'aimerais qu'on parle un petit peu des conditions à lesquelles tu es monté à Paris pour la première fois. Enfin.
Étudiant, en droit.
Tu as fait des études de droit? Mmh. Tu as été à la faculté de droit? Hein.
Faculté de droit, puis à l'école dite libre des sciences politiques.
Qu'est-ce que tu as étudié aux sciences politiques?
La section administrative, je pense. Ça m'intéressait beaucoup, le droit. Je m'intéressais au droit, mais un peu dans l'anti-loi, dans l'anti-droit, quoi. Parce que tout est à démolir dans le droit, c'est bon, quoi. Tout est à démolir, c'est... À part une ou deux lois qu'ils ont prises, parce que ça devait arranger les gens.
Qu'est-ce qu'ils auraient voulu que tu sois, tes parents?
Je sais pas, ma mère n'a jamais pris parti. Mais mon père, je pense qu'il voulait que je sois comme tout le monde, quoi. Avocat...
Médecin.
Excusez-moi, avocat. Avocat. Avocat.
Léo, à quoi ressemblait le Paris que tu as découvert? Tu avais peut-être aussi imaginé cette ville, la ville dite Lumière, la capitale, tu l'avais imaginé de Monaco?
J'ai imaginé, oui.
Et tu as découvert quoi?
Mais j'ai reculé dans le train, parce qu'à quelques kilomètres de Paris, on voyait, j'étais à la fenêtre de la portière, je regardais, de temps en temps, je voyais alors Paris, 60 kilomètres. Alors je disais, on va arriver dans 60 kilomètres. Paris, 40 kilomètres. Trac. Alors quand je suis arrivé, j'étais heureux, les larmes aux yeux en descendant du train. Et c'était fantastique. Paris, c'était vraiment la ville, quoi. La ville. Après, qui a été investi, le grand mal de toutes les villes, d'ailleurs, c'est pas seulement à Paris, c'est l'investissement des villes par les voitures, quoi. Je me souviens, je dis toujours, quand j'étais à Saint-Germain-des-Prés, j'habitais rue Saint-Benoît, dans une pension qui s'appelait pension de l'abbaye, qui doit exister toujours, je ne sais pas si c'est toujours une pension. Et de temps en temps, on allait avec deux ou trois copains boire un demi. En face, là-bas, chez Lippe, il fallait traverser le boulevard Saint-Germain. Je, sans trop exagérer, j'exagère un petit peu, parce que quand on raconte des histoires, on exagère toujours un peu pour faire bien comprendre aux gens. Hein. Et bien, quand on entendait une voiture, on se retournait. Ah, une voiture qui passe, c'est vrai. Allez-y maintenant. Et alors, j'aime plus cette ville, parce que c'est pour comme ça. Quoi.
Léo, quand on découvre une ville comme Paris, on a envie d'aller voir tel ou tel lieu. Tu as eu envie de voir très précisément un lieu, un quartier de Paris?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, non. Je ne suis jamais allé voir les trucs que tout le monde va voir.
Tu aurais pu chercher les traces de...
La Tour Eiffel, je ne suis jamais allé.
Tu aurais pu chercher les traces d'un poète
Les traces d'un poète, ça s'imagine, ça ne se voit pas. Vous voulez voir les traces d'un poète, hein.
Et tu t'es inscrit à l'université?
Je suis passé un jour rue France, campagne première, là où on habitait un moment, Verlaine et Rimbaud. J'ai regardé comme ça, j'ai passé.
Tu étais à la fac à l'époque?
J'étais à la fac de droit, oui.
35, 36, tu as vu arriver 35, les 36, événements 37, hein. Tu as vu des choses arriver ou se passer?
Dans la rue?
Oui.
Chez nous, ça ne m'intéressait pas.
Non,
je n'étais pas dans le coup du tout, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était la musique que je cachais, parce que je n'avais pas le droit d'être musicien. J'avais prétendu ne pas devoir être musicien, parce que quand je disais que j'étais musicien, on se moquait de moi. Un artiste, quand il n'est pas connu, on lui jette des pierres, même moralement, quoi. Ma mère m'appelait « Oh, poète, poète !» Je vais vous raconter une histoire, parce que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé à ce moment-là. En 38, j'avais 22 ans. Nous partions l'été avec ma famille. Mon père avait un type qui lui prêtait une maison en Italie. Pour faire 300 km, il fallait une heure, c'était terrible en train, etc. Alors le soir, mon père me dit, ma mère me dit, tu vas porter les oiseaux chez tante Madeleine. Elle, la tante de ma mère avait une petite cage avec des... Non, ma mère avait une petite cage avec des canaris. Il fallait porter les oiseaux pour que tante Madeleine les garde. Alors je prends le tram, tchac, et je vais porter la cage. Et je reviens, et je me trouvais à 10h du soir, place des casinos, devant le café de Paris, café comme ça, etc. Où on pouvait boire une bière pour pas beaucoup d'argent. Et en buvant une bière, on dansait, sautait. Mais c'était une époque où on dansait très comme ça, n'est-ce pas, écarté. Il n'est pas question qu'on dise à la fille avec qui on dansait « Est-ce que vous venez avec moi après ?» Rien à faire, ça n'existait pas, on n'y pensait même pas. C'était vraiment une époque, pourtant c'est pas le Moyen-Âge. Et c'est quand même pire que le Moyen-Âge, quoi. Et alors, je veux en venir là, j'avais 22 ans et tout d'un coup, j'ai dansé avec cette fille en lui parlant de la lune, du beau temps, enfin, des conneries, quoi. J'entends sur moi quelqu'un qui tape sur mon épaule comme ça. On entend tac, tac. Je me retourne, c'était mon père. J'avais 22 ans. Et j'entends mon père qui me regarde, qui me parle pas, qui me fait chut, avec le doigt comme ça, montant la direction de la maison. Et j'ai suivi mon père. J'ai laissé la fille là. Je m'en voudrais toute ma vie d'avoir fait ça. Mais j'ai appris quelque chose. J'avais demandé à cette fille en lui disant « Tu viens à Monaco comme ça l'été ?» Il me dit « Oui, je suis congé payé. » Et j'ai tout compris.
Il n'y avait pas tous des cris stridents, il n'y avait pas tous des mains coupables et des bandits considérables qui me faisaient grincer des dents. Et dans la rue aux mille gorges, avec son ciel qu'on ne voit plus, magnifiant mon seul écu, j'ai pu gagner le coupe-gorge. Dis-moi, fille du Nord, avec ton air tranquille, tu écumes la ville et dois gagner de l'or. Mon pas, répondit-elle, je suis encore pucelle, et ne suis là vraiment que par enchantement. Et l'inconnu parla comme on parle au navire dans les ports orgueilleux que les départs déchirent. Je restais là comme un dadais, elle était belle comme un cygne. Moi j'avais une de ses guignes, ce n'était pas ce que je croyais. Elle me conta des faits étranges, qu'elle habitait un ciel pervers, d'où l'on voyait tout à l'envers. Pendant ce temps-là, moi, je faisais l'enjeu. Dis-moi, fille du Nord, avec tes airs bizarres et tes façons barbares, tu serais mieux dehors. Je sais, répondit-elle, j'ai tort d'être pucelle. Crois-moi, en vérité, c'est ma célébrité. Et l'inconnu chanta comme on chante à l'église les dimanches matins aux messes des marquises. La chambre était au paradis d'un vieil hôtel à luminaire où l'on cultive la chimère en y mettant un peu le prix. C'est une chose épouvantable. On était presque au petit matin. J'avais beau lui faire un dessin, elle voulait pas se mettre à table. Dis-moi, fille du Nord, avec tes airs primaires, tu me la bailles amère. Je ne suis plus d'accord. Tant pis, répondit-elle, si je reste pucelle, la fin te le dira, alors tu comprendras. Et l'inconnu pleura comme on pleure au théâtre en voyant des pantins se foutre des emplâtres. On croit trouver une âme sœur terre et l'on récolte une vestale qui vient vous faire la morale dans un hôtel sans ascenseur. J'en étais là de mes pensées, j'ai senti sa main sur mes yeux, tout comme un truc miraculeux, et la dame s'est en allée. Dis-moi, fille du Nord, hélas, adieu, romance, à peine ça commence, on change de décor. Je croyais que ces demoiselles n'étaient jamais pucelles, et puis, sait-on jamais, à une exception près. Et la Vierge lassée partie, sans m'avoir eu. Ça n'était qu'un soldat de l'armée du Chalut.
Essayons de voir un peu, on a le temps ce soir, puisqu'on passe toute la soirée ensemble. Quand t'as commencé vraiment en quelle année à écrire tes chansons? Si, de te souvenir.
Avant la guerre.
Avant la guerre.
Avant la guerre, mais alors c'était mauvais, quoi, parce que...
Mais qu'est-ce qui t'a poussé la première fois à écrire?
Je sais pas.
Tu sais pas, ça correspond pas à une chose de ta vie,
Ah oui, il y a tout de même quelque chose qui était extérieur à moi. Moi, j'étais étudiant en droit et j'ai écouté, je suis rentré... dans une maison qui existe encore, Boulevard chez Michel, qui s'appelle Chantecler. Et il y avait des écouteurs, on pouvait mettre des sous, on écoutait des disques. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis rentré, j'ai mis des sous, et j'ai écouté un type extraordinaire. Il s'appelait Chantrenet. Il passait à l'ABC à ce moment-là. Alors là,